Dans le premier épisode de Nommé dans la Bible, un acte créateur, nous avons exploré le récit de la création au tout début du livre de la Genèse. Dieu crée l'univers, il donne forme en séparant pour sortir du chaos. Il crée le jour, la nuit, puis la terre, le ciel et la mer. Enfin, il crée l'homme à son image. Et voilà ce que dit le texte au chapitre 19 et 20. Après avoir modelé toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, le Seigneur les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. On voit donc que Dieu crée et que l'homme se voit confier la responsabilité de nommer toutes les créatures. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous attarder sur un autre passage du livre de la Genèse, au chapitre 32 cette fois. Nous retrouvons Sophie Ramon, sœur de l'Assomption, qui enseigne l'Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris où elle dirige l'Institut des sciences bibliques. Elle nous parle du combat de Jacob contre quelqu'un.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à partir de ce texte-là. Donc, c'est dans le livre de la Genèse au chapitre 32, versets 23 à 33, si on veut aller le relire. C'est un texte qui est assez fascinant. Et c'est un texte qui joue beaucoup avec les noms, justement, de manière assez subtile. Hein, mais déjà, Jacob. Alors, Jacob, c'est un nom qui nous dit une caractéristique de cet individu. Jacob, c'est le tordu, c'est celui qui est rusé. Et quand on lit les chapitres qui précèdent l'épisode du combat, on s'aperçoit que Jacob, c'est l'homme de la ruse, c'est l'homme de la stratégie. Il obtient toujours ce qu'il veut en rusant. Hein. Il a obtenu la bénédiction de son père, il obtient sa femme, et chaque fois, il trompe. Hein. Chaque fois, il se débrouille pour passer avant son frère, pour lui voler la bénédiction qui lui était due, pour obtenir la femme qu'il veut. Voilà, c'est l'homme qui conduit sa vie, l'homme qui mène sa vie, qui, on pourrait dire, c'est celui qui a la maîtrise, Jacob. Oui, il prend des chemins, voilà, plus ou moins corrects, mais comme il nous arrive de faire, pour obtenir ce que nous voulons. Et en cela, il a un côté, voilà, qui est assez sympathique, même si on peut le détester un peu de se moquer de son frère ou d'usurper la bénédiction. Mais c'est un homme qui sait se débrouiller.
Il nous ressemble un peu, quoi.
Voilà, il nous ressemble un peu. Quand il s'agit de défendre un peu ses intérêts, il sait s'y prendre, il sait y faire. Et en fait, il va lui arriver une petite aventure qui nous est racontée donc dans cet épisode, une aventure qui va lui apprendre à lâcher prise, qui va lui apprendre à sortir de cette maîtrise qui est toujours la sienne. Et il va le faire en ayant à combattre avec quelqu'un. Le texte en hébreu nous dit qu'il combat avec quelqu'un. Le texte dit « Jacob resta seul, un homme, c'est-à-dire plus simplement encore quelqu'un, se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. » Et ça, c'est la première chose, c'est que Jacob n'identifie pas son adversaire. Donc imaginez, on est de nuit, il a fait traverser le fleuve, là, le Yabok à tout son clan, il reste seul. Ah oui, j'ai oublié de dire que donc il part en fait, il s'avance là sur le territoire de son frère. Hein, il part pour rejoindre son frère.
Avec qui ?
Avec sa femme, ses enfants, ses possessions, tout son
clan. Sa tribu, son clan.
Sa tribu, voilà. Et il veut retrouver son frère, il veut aller à la rencontre de son frère, mais évidemment, il a quand même beaucoup de chance de se faire mal recevoir par son frère, et il le sait. Hein, on ne trompe pas son frère, et puis on ne revient pas vers lui très tranquillement. Donc là, il a une espèce de stratégie, enfin en tout cas, il se dit comment je vais faire. Bon, il avance, il fait passer le guet du Yabok à sa femme, à ses servantes, aux enfants, toute la tribu, et il reste seul. Et là, donc, arrive ce quelqu'un qui va se battre avec lui. Et il y a une chose étrange qui n'apparaît pas très bien dans nos traductions, c'est que, en fait, souvent le texte est assez indéterminé. On ne sait pas qui fait quoi. Hein, parce que vous avez des pronoms il, mais au bout d'un moment, on est perdu.
On ne sait pas
qui le il.
Si c'est ce quelqu'un ou si c'est Jacob que ça désigne.
Exactement. Il y a quand même quelque chose que l'on apprend, c'est que, on ne sait pas très bien qui l'emporte dans le combat, mais Jacob, première chose, va être blessé. Hein, le texte nous dit, il est blessé à la courbe du fémur ou à la cuisse.
Bon. La tradition veut que ce soit la hanche.
Ou la hanche. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ou la cuisse. Ou bon, les traductions varient un peu. C'est pas très important. Par contre, il y a quelque chose qui est important et qui est intéressant, c'est que dans un autre texte de Genèse, Abraham envoie son serviteur pour chercher une femme pour son fils. Et il lui dit de ne pas prendre de femme étrangère, et ils font un serment en mettant la main sous la cuisse. Et en hébreu, c'est le même terme qui est utilisé pour le lieu où Jacob est blessé. En fait, c'est le lieu du serment, si vous voulez. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce que Jacob est blessé à cet endroit-là, que ce soit la cuisse ou la hanche, peu importe. Mm-hmm. Il est blessé au lieu qui est en principe le lieu du serment.
Celui qu'il a du mal à respecter ?
Exactement. Celui qu'il a du mal à respecter parce que c'est l'homme du mensonge, c'est l'homme de la ruse. Et donc, il est blessé à son point de vulnérabilité, de fragilité, on pourrait dire de péché, là où précisément il a l'habitude de tricher. Il y a une tradition juive que je trouve très, très sympathique, une tradition qu'on trouve dans les textes rabbiniques, qui dit qu'en fait, le personnage qui combat avec lui, c'est le génie d'Ésaü. C'est-à-dire, ce que le texte mettrait en scène d'une certaine manière, c'est que Jacob doit combattre contre la colère et la jalousie de son frère, qu'il a usurpé. Et le combat aurait pour but de lui faire apprendre la vraie fraternité. Une fraternité où on ne trompe pas, où on n'usurpe pas, et où on accepte d'être rendu vulnérable.
Est-ce qu'on parle parfois d'un combat de Jacob avec l'ange, avec un ange ?
En fait, l'ange, c'est le messager de Dieu. Hein. Les anges, nous, on a une représentation souvent un peu, on pense d'ailleurs au tableau de la croix ou d'autres tableaux hein, qui nous représentent ce combat de Jacob avec un ange. Mais l'ange, en fait, le mot en hébreu dit le messager. Hein. C'est le messager de Dieu. Donc, effectivement, et ça, c'est d'ailleurs plus probablement la signification du texte, hein, c'est que Jacob combat avec un messager de Dieu, et à la fin, l'adversaire qui veut lui dire « Quel est ton nom ?» Jacob. Et ça, c'est le premier moment où Jacob lâche prise, parce qu'il dit son nom. Et dire son nom, c'est dire quelque chose de soi.
C'est ce...
Je suis le tordu, je suis le rusé, je suis Jacob. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Il dit quelque chose, il dit son nom, il dit quelque chose de
Ça, c'est dévoiler.
C'est se dévoiler. Et Jacob, ensuite, lui-même demandera le nom à son adversaire. Il va lui dire « De grâce, indique-moi ton nom. » Et l'autre va lui dire « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le laisse sans lui donner son nom.
Pourquoi ?
Pourquoi me demandes-tu ton nom ? Pourquoi voudrais-tu encore chercher à avoir la main mise sur moi ? Hein ? Pourquoi, toi qui as toujours tout maîtrisé, veux-tu encore maîtriser ? Non, tu ne sauras pas mon nom. Hein ? C'est une manière de lui dire « Non, non. » Va jusqu'au bout de ton expérience. Hein. Fais jusqu'au bout cette expérience de démaîtrise. Et alors, puisqu'on est dans les noms, il va se passer deux choses qui sont très importantes. D'abord, c'est que Jacob va recevoir, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais va recevoir un autre nom. Hein, le personnage lui dit, l'adversaire,
le quelqu'un.
L'ange, le quelqu'un, voilà, le quelqu'un lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Et d'ailleurs, c'est intéressant, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Donc, vous voyez que la tradition rabbinique qui nous dit qu'il lutte avec le génie de son frère, donc la jalousie ou la colère de son frère, elle n'est pas complètement inintéressante. Donc, on ne va plus l'appeler le tordu ou le trompeur, on va l'appeler Israël, celui qui l'a emporté contre Dieu et contre les hommes.
Alors que c'est étrange, parce qu'on pourrait au contraire comprendre qu'il a été vaincu, puisqu'il est blessé et qu'il a fini par lâcher l'affaire, si on peut dire, en donnant son nom. Qu'est-ce qu'il a gagné ?
Il a gagné qu'il a fait la vérité. Il a gagné qu'il a fait la vérité en lui et qu'il a donc été blessé à l'endroit même de son péché, donc sa ruse. Et qu'il va poursuivre, il va pouvoir poursuivre sa vie sans tromperie, sans mensonge. Alors, c'est pour ça que on appelle quelquefois ce texte le combat. Alors, c'est pas simplement qu'il y a un combat physique. On pourrait dire en quelque sorte qu'il y a un combat spirituel d'une certaine manière. Jacob doit apprendre à mener sa vie sans tromper. Sans tromper Dieu, sans tromper les autres, sans se tromper lui-même. Et donc, en fait, dans ce combat qu'il mène avec quelqu'un, il mène le combat contre lui-même.
Et en quelque sorte, il lâche les armes et il reçoit donc un nouveau nom.
C'est ça.
Pour dire qu'il est un homme nouveau.
Il reçoit un nom qui dit qu'il est un homme nouveau, qu'il est un homme qui va pouvoir recommencer ou continuer sa vie autrement. Mais c'est pas la seule chose dans le récit, parce que il y a quelque chose d'autre qui reçoit un nom, c'est le lieu. Le lieu où cela s'est passé.
Le lieu du combat.
Le lieu du combat. Il nous est dit, Jacob appela ce lieu Peniel, c'est-à-dire face de Dieu. Car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. Et là, si vous voulez, c'est un peu la relecture de Jacob qui comprend que dans ce combat avec quelqu'un de non identifié, qui n'a jamais voulu lui donner son nom, en fait, il a combattu Dieu, il a combattu pour être en vérité dans la relation avec Dieu. Et il fait de ce lieu un mémorial, un lieu de mémoire, là où j'ai vu Dieu face à face hein, et où ma vie a été sauvée. Là où en fait il a été sauvé dans son être le plus profond. Il peut devenir lui-même sans ruse, sans tromperie, sans mensonge, etc.
C'est la fin du deuxième épisode du podcast nommé dans la Bible « Un acte créateur » avec Sophie Ramon, sœur de l'Assomption, qui enseigne l'Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris où elle est également responsable de l'Institut des sciences bibliques. Dans le prochain épisode, il sera question des noms de Dieu dans les Écritures.